bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de l'espérance dans la Bible. Et nous accueillons Philippe Délé, bonjour.
Et bonjour Gaël, et je souhaite une bienvenue et bonjour à tous nos auditeurs.
Alors je rappelle, vous êtes notre interlocuteur depuis le début de cette série où nous parlons de l'espérance à travers la Bible et plus particulièrement depuis une dizaine d'émissions, nous évoquons également le livre de l'Apocalypse, livre dans lequel il y a également de l'espérance à travers des prophéties. Alors ce livre nous a permis de commencer à évoquer le conflit entre Christ et Satan, plus particulièrement puisque nous nous sommes focalisés d'entrée sur les chapitres 12 et 13, soit environ le milieu de ce livre. Alors Philippe, pouvez-vous nous faire un bref résumé de ces dernières émissions et de ce qu'est le livre de l'Apocalypse.
Ce qu'est le livre de l'Apocalypse. Alors, tout d'abord, regardons de quelle manière le monde reçoit ce mot Apocalypse et de quelle manière il l'utilise dans la société. Selon un dictionnaire traduit de l'anglais, le mot Apocalypse correspond à catastrophe qui évoque la fin du monde par son ampleur. Et trop souvent, les médias utilisent ce mot pour traduire toutes sortes de catastrophes. Il est vrai qu'en lisant les chapitres de ce livre, nous rencontrons des catastrophes, des fléaux qui peuvent inquiéter le lecteur lambda. D'ailleurs, chez beaucoup de personnes, ce mot fait peur. Mais lorsqu'on s'y attarde, nous constatons que la réalité est tout autre. En fait, ce livre est une bonne nouvelle pour tous ceux qui espèrent en une justice divine et qui espèrent en Christ.
Donc, pouvez-vous nous rappeler le sens originel de ce mot ?
Alors, étymologiquement, ce mot « apocalypse » est la transcription d'un terme grec Apocalypsis, signifiant le dévoilement. Aussi, vous préférez ôter le voile. Mais voyons au regard de la Bible ce que veut dire ce mot Apocalypse au chapitre 1 et au verset 1. Révélation de Jésus-Christ. En fait, Jésus lui-même est le révélateur de ce livre. Et je vous invite à lire la suite du verset 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Jean ici est un serviteur auquel Dieu montre les choses futures, celles qui doivent arriver. Jean est un prophète parce que l'Apocalypse est une prophétie. Jean atteste tout ce que Dieu lui a montré par l'intermédiaire de Jésus.
Oui, mais ce livre est tout de même rempli de symboles qui peuvent paraître incompréhensibles pour un utilisateur non averti.
Oui, vous avez raison, au premier abord. Mais pour un lecteur de la Bible, ce livre est déjà moins repoussant. Et je ne pense pas que Dieu ait mis la barre si haute que seuls les érudits puissent comprendre. Écoutez le verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. »
Donc d'après ce verset, il y a une bénédiction à lire ce livre.
Oui, et puis si ce livre faisait partie des mystères de Dieu et que les hommes ne devraient pas le comprendre, il s'appellerait « mystère » et pas « révélation ». Or, c'est bien une révélation, quelque chose porté à la connaissance, quelque chose qui n'est pas caché. Écoutez ce que nous dit Moïse à ce sujet. Dans le chapitre 29 du livre du Deutéronome, au verset 29, il est dit ceci. « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Quelle étrange similitude avec le verset 3 du chapitre 1er de l'Apocalypse. Je le relis d'ailleurs. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Et relisons le verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Alors, qui sont ses serviteurs? Eh bien, tous ceux qui ont accepté le Christ dans leur vie et qui veulent partager son message d'amour, son message de justice et puis son retour.
Alors tout de même, ce n'est pas un livre que nous pouvons lire simplement comme cela et après dire que nous l'avons compris.
Non, certainement pas, bien sûr. L'étude de la prophétie est un travail d'investigation. Et pour caricaturer, je dirais même un exercice d'analyse grammaticale. Et puis ce livre s'adresse aux croyants. Jésus sur terre s'adresse aux croyants et à ceux qui se disent croyants. Il s'adresse aussi à tous ceux qui le recherchent sincèrement. Je vous cite une parabole de Jésus, celle du trésor caché. Elle se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 44. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Nous pouvons dire pour imager de celui qui étudie régulièrement la parole de Dieu, la Bible, qu'il creuse et forcément il trouve des trésors. Et les prophéties sont des trésors. Et à travers les prophéties, Dieu se révèle et révèle son caractère d'amour et de vérité. D'ailleurs, cette parole résonne bien avec le verset 3 du chapitre de l'Apocalypse. Je le relis. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. » Alors, bien sûr, il y a un effort à faire. Il faut passer du temps avec la parole de Dieu, ou plus simplement, passer du temps avec Dieu lui-même. Et cela devient une passion. Cela ne devrait pas poser de problème lorsque nous voyons toutes les heures gaspillées pour des passions futiles qui, pour certains, sont devenues une forme d'idolâtrie. Ce livre est accessible à tous ceux qui sincèrement recherchent la compréhension de la parole de Dieu avec humilité et par la prière et avec l'aide de l'Esprit-Saint. Écoutez cette promesse de Dieu faite dans le livre de Jérémie au chapitre 33 au verset 3. Je vous cite. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. »
Donc pour résumer votre pensée, il s'agit de lire les Écritures dans leur ensemble, la Bible, Ancien et Nouveau Testament, en collaboration avec l'Esprit-Saint, pour comprendre ces livres prophétiques. Pour revenir maintenant sur ce livre de l'Apocalypse, nous l'avions abordé non pas par le début, mais par le milieu, chapitres 12 et 13. Vous pouvez nous faire un bref résumé de ces chapitres qui étaient tout de même denses.
Oui, alors, à la lecture de ces chapitres, nous nous sommes retrouvés face à plusieurs symboles. Certains nous semblent faciles à comprendre, et pour d'autres, il serait moins évident à leur donner une signification. Mais je vous rappelle que pour tous les symboles, il n'y a qu'une seule et unique règle, les comparer aux Écritures. Les mots de la Bible sont à comprendre à la lumière de la Bible et non au vocabulaire du monde. Il s'agit de rechercher dans la Bible, tout en gardant le contexte, ce que veut dire tel ou tel signe ou tel symbole. Le chapitre 12 nous indique qu'il y a eu un conflit ou une guerre dans le ciel entre d'une part Michel, Jésus-Christ, et ses anges, et d'autre part un dragon rebelle, Satan, et ses anges. Et celui-ci a détourné un tiers des anges de Dieu et les a attirés dans son camp. Et la Bible nous dit que Satan et ses anges ont été chassés du ciel et ils ont été jetés sur la terre. Et nous avions évoqué, rappelez-vous Gaël, ces passages lors des émissions 55 et 56.
Il me semble aussi dans ce chapitre 12 qu'il était question d'une femme coiffée d'étoiles, de soleil, avec la lune sous ses pieds.
Effectivement, toujours des symboles. Une femme qui d'ailleurs fait partie de l'enjeu de cette guerre. La Bible nous a démontré que cette femme représente l'épouse de Christ, c'est-à-dire son église ou son peuple qui est réparti sur toute la terre. Et le dragon qui est maintenant sur la terre avec ses anges et qui sont devenus des démons, lui font la guerre. Et les émissions 54 et 58 donnent des précisions quant à ces enjeux.
Puis, nous passons au chapitre suivant.
Eh bien oui, nous avons également abordé le chapitre 13 et nous avons découvert une bête, encore. Et celle-ci avait 7 têtes et 10 cornes, et dont l'une de ses têtes était blessée à mort, mais sa blessure mortelle avait été guérie. Alors le dragon lui avait donné son trône, sa puissance et une grande autorité. Et par la Bible, nous avions identifié cette bête à la papauté qui, depuis 1929, revient au premier plan de l'actualité. Et là aussi, si vous voulez bien, j'invite les auditeurs à réécouter les émissions 59 à 62.
Eh bien voilà Philippe, pour ce bref résumé de ces chapitres et de cette première partie de l'exploration de ce livre de l'Apocalypse, que nous n'avons pas fini d'explorer hein, d'ailleurs, je vous propose qu'on puisse poursuivre ces découvertes, ces recherches, cette investigation dans de prochaines émissions, si vous voulez bien.
Mais oui, avec plaisir.
Alors comme habituellement maintenant, je vous propose de nous donner un mot de conclusion.
Et comme habituellement, eh bien on va laisser cette bonne nouvelle à la Bible. Et je vous cite le chapitre 22 de l'Apocalypse, au verset 6, ceci. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et il me dit, ne scelle point ces paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche.
Merci Philippe, à bientôt.
À bientôt Gaël, merci, au revoir.